Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine, qui est programmée sur Radio Galère 88.4 tous les mercredis de 18h à 19h. Cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est le groupe local de la campagne BDS France qui propose cette émission, c'est BDS Provence. BDS Provence a une page Facebook, BDS Provence, sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond, où vous pouvez aussi laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions, vous êtes les bienvenus. La campagne BDS France a un site, c'est www.bdsfrance.org, avec de nombreuses informations également, des articles de fond, c'est très intéressant. Nous avons aussi une boîte mail, c'est bdsprovence@orange.fr. Alors, ce soir, je propose de vous faire partager la lecture d'un ouvrage que je viens de lire et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il s'agit du livre de Gada Carmi qui s'intitule « Israël-Palestine, la solution de point un État ». En fait, dans notre campagne BDS France, nous ne prenons pas du tout position sur l'idée de un État, deux États. Nous pensons que c'est au peuple palestinien de se déterminer hein, quand le moment sera venu et nous espérons qu'il viendra bien sûr le plus tôt possible. Pour l'instant, la campagne BDS est là pour soutenir la résistance palestinienne selon les modalités que la société civile palestinienne a choisies pour cette campagne, c'est-à-dire une résistance politique, citoyenne, non violente et antiraciste. Mais j'ai trouvé dans cet ouvrage de Gada Carmi des arguments très forts qui montrent qu'aujourd'hui, la seule solution qui puisse satisfaire le besoin de justice des Palestiniens, réfugiés compris, et le besoin de sécurité des Israéliens, c'est celle d'un État laïque sur le territoire de la Palestine historique, dont tous les habitants auraient les mêmes droits. Gada Carmi défend cette idée sans en déterminer le moment de la venue, mais plutôt comme une vision et une foi dans l'humanité des deux peuples, aussi bien le peuple palestinien que le peuple israélien. Donc j'ai choisi de vous lire en fait de longs extraits de ce livre tellement dense qu'il est difficile de le résumer. J'ai préféré rester sur le texte de Gada Carmi. Donc je vais entrecouper la lecture de plusieurs pauses pour vous permettre de retrouver la concentration nécessaire à cette écoute. Alors je vais commencer par le premier chapitre qui s'intitule « Le problème du sionisme ». Donc je vais vous lire les premières pages que j'ai trouvées très intéressantes et très déterminantes. Pour commencer ce livre, il faut replacer la situation en Israël-Palestine dans son juste contexte. Israël n'est pas un phénomène naturel au Moyen-Orient. Il ne s'est pas développé dans des circonstances ordinaires et il n'a pas d'antécédent historique dans la région, malgré la mythologie biblique invoquée pour suggérer le contraire. C'est un État colonial, fondé de novo pour fournir un asile aux Juifs du monde entier, ou tout au moins à ceux qui souhaiteraient s'y installer, avec l'objectif de maintenir une majorité juive permanente au sein de cet État. Quand les sionistes décidèrent en 1897 de fonder un État juif en Palestine, ils avaient conscience qu'il existait dans ce pays une population indigène non juive. Comment créer et maintenir un État pour un autre peuple dans un pays déjà habité? La quadrature de ce cercle est le dilemme d'Israël depuis sa fondation et la cause de la tragédie palestinienne qui en a résulté. Il ne pouvait pas en être autrement car le projet envisagé par les sionistes était bizarre et de fait impraticable. Il s'agissait de construire une collectivité ethniquement définie, uniquement juive, sur un territoire appartenant à un autre peuple qu'il fallait exclure. De plus, cette nouvelle création était supposée prospérer éternellement malgré l'opposition des indigènes. Inévitablement, un tel projet qui nécessitait la prise en main d'un pays déjà habité par une population considérée comme ethniquement inacceptable ne pouvait être réalisé que par la force et la coercition. Pour avoir quelque chance de durer, le nouvel État devrait maintenir une supériorité militaire constante grâce à l'appui de son créateur, l'Occident. En corollaire, les Arabes devraient rester trop faibles et trop désunis pour offrir quelque résistance, la puissante armée israélienne étant là pour réprimer rapidement toute tentative en ce sens. Tel est en substance le projet sioniste dont les buts principaux furent réalisés par la fondation de l'État d'Israël en 1948, mais qui n'a jamais été capable de résoudre le problème posé par les Palestiniens. Quelques pages plus loin, je vous lis la suite. Inévitablement, les Arabes ont toujours considéré Israël comme un corps étranger implanté au cœur de leur région. Ils l'ont rejeté comme le corps humain rejette un greffon étranger. Dans ce cas, les médecins s'efforcent de supprimer la réaction de rejet pour sauver la vie du malade. Et ce noble but est généralement considéré comme légitime et justifie les efforts et les dépenses pour y parvenir. Le sionisme considère sa lutte dans les mêmes termes. Accomplir une tâche non moins noble, celle de maintenir un État juif comme solution à la persécution séculaire des Juifs. Dans l'accomplissement de ce but perçu comme un projet évidemment moral, des mesures qui normalement paraissent inacceptables deviennent tolérables comme moyen d'une fin discutable. C'est ce qui fait la fin du sionisme, une idéologie si dangereuse. La plupart des Juifs et une bonne partie des libéraux occidentaux non-juifs ont la conviction profonde qu'il est dans son droit. Peu après avoir émis sa fameuse déclaration, Alfred Balfour l'exprimait dans ces termes, je cite, « Le sionisme, qu'il ait tort ou raison, qu'il soit bon ou mauvais, est enraciné dans des traditions anciennes, dans des nécessités présentes, dans des espoirs d'avenir, dans tout un ensemble bien plus important que les désirs et les frustrations des 700 000 Arabes qui vivent aujourd'hui sur cette vieille terre. » Fin de citation de Lord Balfour. Ces mots datent de 1917. Dans les trois décennies suivantes, le génocide nazi a fini de persuader les soutiens occidentaux du sionisme qu'il était impératif de trouver un havre pour les Juifs persécutés. Et depuis lors, en Occident, peu nombreux ont été ceux qui n'étaient pas d'accord. Cette conviction est étroitement liée à la perception de la Palestine comme le refuge légitime et nécessaire des Juifs, idée profondément ancrée dans le cœur et l'esprit de la quasi-totalité des Juifs, même libéraux, et de la majorité des non-Juifs en Occident. Mettre en doute cette idée, avancer que les Juifs ou tout autre groupe étranger n'ont aucun droit sur la Palestine en tant qu'État, et que, malgré leurs souffrances passées, ils n'étaient pas autorisés à dépouiller son peuple, cette mise en doute équivaut à un sacrilège. La campagne visant à assimiler toute critique d'Israël à de l'antisémitisme, lancée par les sionistes et vigoureusement poursuivie de nos jours, a aggravé la situation. En outre, le lien entre les Juifs et la Terre sacrée, déjà présent dans l'esprit des chrétiens occidentaux, pratiquants ou non, contribue à rendre le cas israélien inattaquable. Pour les Palestiniens, principales victimes de l'entreprise, s'opposer à ce mélange de sens commun, de psychologie, d'émotions et de convictions enracinées est une tâche monumentale. Leur cas a été si efficacement noyé dans le récit israélien dominant que pendant des années, l'on ne s'attendait pas à ce qu'ils le mettent en question ou y résistent. Comme tout le reste du monde arabe, ils étaient censés partager la vision commune d'Israël comme projet moral et ne pas s'opposer à sa création. L'hostilité arabe envers Israël semblait donc mystérieuse ou méprisable, et c'est seulement depuis la première et la seconde guerre, la seconde intifada, 1987 et en 2000, et la brutalité des attaques israéliennes contre Gaza, que les Palestiniens ont pu légitimement manifester leur opposition. Mais par un consensus implicite, cette opposition est strictement limitée à ce que les Palestiniens peuvent espérer, c'est-à-dire qu'Israël cesse son occupation, avec comme résultat final une sorte d'État palestinien dans des territoires conquis par Israël en 1967. Un tel État est considéré comme le sommet des ambitions palestiniennes, toute revendication sur la terre perdue avant 1967 étant exclue de l'équation, comme s'il n'y avait jamais eu d'histoire palestinienne avant 1967, comme si Israël avait toujours fait partie du paysage. Voilà, donc ça c'est une partie du premier chapitre qui s'intitule « Le problème du sionisme ». Alors, pour vous permettre de souffler un peu maintenant, nous allons écouter la bande-son d'une vidéo qui s'intitule « Israël, un état d'apartheid, point d'interrogation ». C'est une vidéo qui a été coproduite par Palestine Solidarity Campaign et Makan. Cette vidéo explore la réalité de l'apartheid à laquelle sont confrontés les Palestiniens et les Palestiniennes sur le terrain, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Israël et en exil. Alors, dans cette vidéo, il y a deux courtes interviews en anglais, mais c'est vraiment court, hein, et cet anglais n'est pas difficile à comprendre, en tout cas, même pour ceux qui ont fait anglais première langue ou anglais deuxième langue. C'est assez simple et tout le reste est en français et ça dure entre 5 et 6 minutes. Voilà, je vous laisse écouter. À tout à l'heure.
Arrêté sur le chemin de l'université par un soldat à un poste de contrôle, interdit de vivre dans une ville parce que vous êtes palestinien, regarder votre maison démolie par un bulldozer, faire face à des bombardements aériens, nuit après nuit. Telle est la réalité à laquelle sont confrontés les Palestiniens sur le terrain, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Israël et en exil. Un système de règles qui opprime les Palestiniens, simplement parce qu'ils sont palestiniens. Si le mot apartheid est surtout associé au système de domination de la minorité blanche en Afrique du Sud, il s'agit en fait d'un crime qui ne se limite pas à un seul pays ou régime. En vertu du droit international, l'apartheid est défini comme tout acte inhumain commis dans le cadre d'une discrimination et d'une domination systématique d'un groupe racial sur un autre, dans le but de maintenir ce système d'oppression. Lors de sa fondation en 1948, l'État israélien a commencé à appliquer des lois discriminatoires à l'égard de la population palestinienne indigène. Israël a adopté des lois qui empêchaient les plus de 750 000 réfugiés palestiniens, chassés de leur maison lors de la fondation de l'État israélien, de revenir, tout en permettant aux Juifs du monde entier d'émigrer en Israël en tant que citoyens. Les lois qu'Israël a établies lors de sa fondation ont défini le cadre de la règle raciste qu'il a mise en œuvre depuis, que ce soit en Israël même, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et à Jérusalem-Est, territoire palestinien qu'Israël occupe et contrôle depuis 1967. Voyons cela de plus près. À l'intérieur d'Israël, les citoyens palestiniens possédant un passeport israélien sont confrontés à diverses lois et pratiques racistes. Par l'adoption de sa loi sur l'État-nation, le gouvernement israélien affirme sans ambages qu'Israël n'est un État que pour ses citoyens juifs. En d'autres termes, si vous êtes un Palestinien vivant en Israël, le gouvernement ne vous considère pas et ne vous traite pas comme un égal. Ces citoyens palestiniens d'Israël sont également confrontés à des politiques qui les discriminent dans tous les aspects de leur vie, que ce soit en matière de logement, de terre ou d'éducation.
Many Palestinian citizens of Israel, like myself, cannot even choose where to live. In dozens of communities across Israel, this right is held by admissions committees made up of Jewish Israeli citizens who can decide whom to accept into or turn away from their communities. Put simply, I'm not allowed to live in many towns in Israel because I'm not Jewish.
En Cisjordanie, les Palestiniens vivent sous le régime militaire israélien et sont soumis à un système de droit distinct, bien plus dur que celui appliqué aux Israéliens juifs. Ils sont privés des déplacements élémentaires en Cisjordanie et subissent quotidiennement les démolitions de maisons et le vol de leurs terres. Les colons israéliens, en revanche, jouissent de tous les droits politiques et bénéficient d'un soutien financier, ainsi que d'infrastructures largement supérieures, bien qu'ils se soient installés illégalement sur des terres palestiniennes. Ils peuvent également se déplacer librement, sans les innombrables restrictions imposées aux Palestiniens, qui ne sont même pas autorisés à utiliser de nombreuses routes construites sur leurs propres terres. Les Palestiniens de Gaza, qui vivent également sous le régime militaire israélien, connaissent le côté le plus dur du régime israélien. Ils vivent sous un blocus terrestre, aérien et maritime suffocant, imposé par Israël, qui les emprisonne. Et ils sont soumis à de fréquentes attaques militaires violentes qui détruisent les infrastructures de Gaza, font des milliers de victimes et en blessent grièvement beaucoup d'autres. Et qu'en est-il des réfugiés ?
Palestinian refugees like myself, even those who were born in historic Palestine, what is today the state of Israel, and their descendants are prevented from returning to their homes or receiving citizenship. However, under the Israeli law of return, any Jewish person in the world, including their children and grandchildren, can immigrate to Israel and become citizens of the state at any time.
En 2017, un rapport capital de la CESAO de l'ONU a conclu que le régime de domination d'Israël sur les Palestiniens constitue un apartheid. En janvier 2021, B'Tselem, le plus grand groupe israélien de défense des droits de l'homme, a également défini Israël comme un régime d'apartheid. Et plus important encore, les activistes palestiniens et les groupes de défense des droits de l'homme le disent depuis des décennies. Alors, pourquoi utiliser le mot apartheid ? Le terme apartheid nous aide à comprendre que la lutte à laquelle sont confrontés les Palestiniens ne concerne pas seulement des violations isolées des droits de l'homme, mais un régime de contrôle qui, à dessein, domine le peuple palestinien dans son ensemble. Comme les Palestiniens l'ont demandé à plusieurs reprises, les États ont la responsabilité, en vertu du droit international, d'obliger Israël à rendre des comptes pour ce crime, notamment en mettant en place des sanctions jusqu'à ce que les Palestiniens puissent vivre dans la liberté et l'égalité. Apprenez-en davantage sur la lutte pour les droits des Palestiniens et aidez-nous à œuvrer pour un avenir où chacun est traité de manière égale.
Voilà, donc cette vidéo est vraiment très intéressante. Vous la trouvez facilement sur YouTube. Elle s'intitule « Israël, un état d'apartheid, point d'interrogation ». Comme ça, vous avez les images en même temps. Et pour les courtes interviews en anglais, vous avez les sous-titres. J'espère que vous avez quand même pu comprendre ce qu'il en est. Alors, maintenant, je reprends ma lecture de certains extraits du livre de Gada Carmi. Et je vais vous lire la fin du premier chapitre, donc toujours ce chapitre intitulé « Le problème du sionisme ». Voici la fin du premier chapitre. L'argument central de ce livre est que la principale cause de l'échec du processus de paix est la volonté sioniste de créer et de maintenir une majorité juive dans un pays appartenant à des non-juifs. Cette impérieuse volonté a conduit à une série d'initiatives israéliennes qui toutes visaient à minimiser la présence palestinienne et à s'assurer qu'elle n'allait pas ressurgir. D'où une série de plans combinant expulsion, comme en 1948, en 1967 et aujourd'hui à plus bas bruit, et partage du territoire largement en faveur de l'État juif, ce qui est évidemment difficile dans un territoire dont la taille est celle du pays de Galles et dont les ressources naturelles sont largement disséminées. Tenter de les répartir sur un territoire inégalement partagé est impraticable, sauf vol pur et simple auquel les Palestiniens ne peuvent pas consentir. Les propositions de « paix » entre guillemets israéliennes entachés d'injustices et d'inégalités, peuvent être imposés par le plus fort et avoir un succès momentané. Mais une solution durable doit reposer sur la justice Et pour les Palestiniens, si calomniés dans cette affaire, cela signifie leur permettre une vie dans la dignité et l'égalité dans leur pays. En tant que Palestinienne de l'extérieur, nous dit Gada Karmi, la question de la justice est dominante dans ma façon de penser. Le fait que je ne vive pas sous occupation israélienne, ni dans un camp de réfugiés, ni à l'intérieur d'Israël, mais comme citoyenne de deuxième ordre, ne change rien à ma position. Alors le fait qu'elle ne vive pas à l'intérieur d'Israël comme citoyenne de deuxième zone, hein, cela ne change rien à sa position. Je continue. Tous ceux d'entre nous qui ont grandi en Occident ont été soumis à l'affirmation que la création d'Israël était juste, tout comme la dépossession pour les natifs du pays. Pendant des années, la solution à deux États a été vendue comme la réponse au problème, y compris chez de nombreux Palestiniens. Mais est-il juste pour le peuple indigène de la Palestine, dont la majorité vit dans des camps ou des pays étrangers, de voir le pays divisé en zones inégales, la part du lion revenant à l'envahisseur? Pourquoi accepterait-il une solution qui ne tient pas compte de la réalité de leur situation? Il est clair que si la solution à deux États était réalisée, la majorité des Palestiniens qui vivent en diaspora en serait exclue. Quel serait le destin de ces gens? Israël et ses alliés occidentaux ont émis tout un fatras de propositions, le rapatriement pour certains, l'émigration pour d'autres, une compensation pour d'autres encore, des solutions bâclées qui ne peuvent que créer davantage de dislocations et de souffrances et reproduire l'injustice initiale. Aucun accord de paix ne peut être durable dans ces conditions. La justice commande aussi que la communauté juive israélienne qui habite dans ce nouveau pays, et peu importe comment elle y est arrivée, soit elle aussi assurée de vivre dans la dignité et l'égalité. Dans la suite du livre, je chercherai à montrer que la seule solution capable de satisfaire ces deux impératifs est la création d'un seul État où les deux peuples vivront ensemble. Il n'existe pas d'autre manière raisonnable de satisfaire leurs besoins. Et sans la folle et destructive recherche par Israël d'un État ethnique réservé aux seuls juifs, la solution à un État aurait été appliquée depuis longtemps. Voilà, là nous terminons donc le premier chapitre, le problème du sionisme. Alors je passe sur les deux prochains chapitres qui s'intitulent « Israël et les Arabes » et le suivant « Le plan de paix israélo-palestinien » pour arriver au chapitre 4 de ce livre intitulé « Un seul État », qui est le chapitre en fait le plus long, hein, il fait 80 pages, et il se divise en sous-chapitres qui étudient tour à tour la solution à deux États, puis la solution à un État, en passant par une réflexion sur le binationalisme, sur un État laïque et démocratique, sur le droit au retour. Bref, c'est un chapitre extrêmement riche, très argumenté. Donc, je vous en lis dans un premier temps juste le début. D'après une vision qui prévaut en Occident, surtout chez les commentateurs sionistes, le conflit palestino-israélien est quelque chose de très compliqué. Cette vision sert non seulement à obscurcir la situation réelle, mais aussi à conclure que la solution de tel problème est elle aussi complexe et probablement impossible à définir sans parler de la mettre en œuvre. En fait, rien n'est plus loin de la vérité. La question est simple. Un mouvement colonial européen a déplacé une population indigène et nié ses droits essentiels, ce qui a inévitablement provoqué une résistance et une lutte incessante. La façon évidente de faire cesser cette lutte aurait été de corriger l'injustice faite au peuple indigène et de trouver un arrangement raisonnable pour les droits et les besoins de tous ceux qui sont concernés. Les paramètres d'une telle solution sont clairs. Et la seule difficulté est de les appliquer, non pas à cause de leur complexité, mais parce qu'Israël s'en tient à son idéologie colonialiste, le sionisme, et que l'Occident le soutient et même l'encourage à tenir cette position. Le présent chapitre traite de savoir ce qui constituerait cet accord juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, sans tenir compte de sa possibilité au moment où j'écris. Le fait que quelque chose est juste ou injuste est indépendant de ce qu'on peut en faire. Israël n'a aucune idée nouvelle pour résoudre le conflit. Il ne fait que reprendre la vieille formule sioniste de maintenir un État juif, c'est-à-dire un État à majorité juive. En trois quarts de siècle, il n'a pas été capable de résoudre le dilemme originel posé par la présence palestinienne. Ses efforts pour effacer les Palestiniens par tous les moyens, depuis leur dispersion initiale jusqu'au déni de leur histoire et même de leur existence, leur marginalisation politique, leur emprisonnement dans des ghettos ont échoué à les faire disparaître en tant que réalité physique et politique. Pourtant, le rêve israélien continue à faire croire qu'il est possible de poursuivre une politique contre les Palestiniens qui fera disparaître le problème. Cette stratégie, sans cesse reconduite, consiste à anéantir la résistance palestinienne par la force, à confiner les Palestiniens dans de petites enclaves isolées, de façon à éviter qu'ils forment une sorte d'État, à étrangler leur économie et leur société, à les pousser à émigrer, en Jordanie ou n'importe où ailleurs, à condition que ce soit en dehors de ce qu'Israël considère comme ses frontières, et à ignorer le reste, c'est-à-dire les réfugiés dans leurs camps, les autres dispersés ici et là, et ceux qui vivent en Israël traités comme des citoyens de seconde zone. L'alternative, accepter la présence palestinienne comme une réalité qu'il faut traiter par de véritables négociations aboutissant à un accord mutuellement accepté, est une option qu'Israël refuse d'envisager. Voilà, alors, nous allons faire une deuxième pause, histoire de retrouver un peu de concentration, de se détendre d'abord. Alors, c'est une pause musicale. Nous allons écouter un morceau intitulé « Alternative Facts ». C'est un morceau axé sur les fake news et il est joué par Big Hop George. Big Hop George, de son vrai nom, s'appelle George Bishara. Il est né en 1954 et avant d'être musicien, c'était un professeur de droit américain et surtout un commentateur de l'actualité au Moyen-Orient et en particulier du conflit israélo-palestinien. Il a fait éruption sur la scène du blues de manière importante avec son premier CD, c'était en 2014, son premier CD qui s'intitulait Chromaticism, qui était construit autour de son amour pour jouer de l'harmonica chromatique. Il avait un groupe de blues au Liban. Ça, c'était avant de devenir un commentateur. Il est devenu ensuite un commentateur respecté, mais parfois controversé du droit et de la politique au Moyen-Orient. Et ensuite, il s'est totalement consacré à la musique. Et ce Big Up George soutient depuis longtemps la possibilité d'une solution à un seul État pour le conflit israélo-palestinien. Et il soutient également le boycott d'Israël. Il avait affirmé dans un éditorial publié en 2007 par le San Francisco Chronicle qu'un boycott était à la fois nécessaire et justifié par l'occupation continue des territoires palestiniens en Israël. Voilà, donc nous écoutons cette musique. Ça dure assez longtemps, ça dure pratiquement 7 minutes, mais ça vous permettra de vous détendre. C'est extrêmement agréable et je vous retrouve tout de suite après. I'm sorry. Alors, je reprends le fil de notre lecture. Je saute pas mal de pages pour vous lire maintenant des extraits. On est toujours dans le chapitre 4 qui s'appelle « Un seul État » et je vais vous lire des extraits du sous-chapitre intitulé « La solution à un État ». Alors, la solution à un État, nous dit Gada Carmi, c'est l'alternative évidente à la solution à deux États. Mais ce n'est pas seulement une affaire de logique. C'est une approche tout à fait différente de résoudre le conflit. La solution à deux États et ses variantes avait comme seul but, quelle que soit la rhétorique, la fin de l'opposition israélienne et de ses conséquences sur la vie des Palestiniens dans les zones occupées. Elle laissait intacte la nature de l'État israélien et sa dangereuse idéologie, le sionisme. Selon cette façon de voir, beaucoup de juifs sionistes ressentaient la nécessité d'expulser les Arabes. Je passe. Ce qui ne veut pas dire qu'Israël n'a gagné aucun accord de reconnaissance officielle pendant ses 73 ans d'existence. En 1979 et en 1994, il a signé des traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Et en 2020, ses relations se sont normalisées avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Mais ces alliances formelles étaient fondées sur la puissance supérieure d'Israël et son statut d'État, appuyé par les États-Unis. Elles n'ont nullement intégré Israël dans la région. Il reste un État lié à une idéologie hostile qui ne peut que nourrir un conflit permanent. Par sa nature, la solution à un État s'attaque à tous ses problèmes en allant au cœur du sujet, l'existence d'Israël comme État sioniste. Je poursuis un petit peu plus loin. Le but de ce livre n'est pas de présenter un plan pour construire un État unitaire. On pourrait faire la liste des étapes traditionnelles bien connues de tous les activistes. Elle passerait par l'éducation politique, la création de cadres et de circonscriptions, le recrutement de politiciens et de décideurs, etc. Mais l'essentiel de l'entreprise est de lancer un débat parmi les Palestiniens et les Juifs sur la solution à un État, de les réunir autour de ce concept et que ce débat entre dans le discours courant. Une phase intérimaire dans laquelle les Palestiniens retrouveraient leur identité brisée, regagneraient une normalité, guériraient de l'occupation, une phase qui serait un chemin possible vers le résultat final, bien que l'État palestinien, comme on l'a vu, soit une éventualité improbable. Trop de Palestiniens sont attachés à l'idée d'avoir leur État et trop peu pensent que la communauté internationale les aidera. Trop d'entre eux pensent que la communauté internationale les aidera à l'obtenir pour qu'ils rejettent cette chance. Et de fait, dans l'éventualité improbable que cet État voit le jour, avec une politique de frontières ouverte, une collaboration croissante entre les deux États, cela pourrait conduire un jour à leur intégration, puis à un seul État. De même, un État binational rassurant les Israéliens et les Palestiniens en leur montrant que leur identité nationale ne serait pas fondue dans un État unique avant qu'ils y soient prêts, est un autre chemin possible vers le même stade final. Je continue encore un tout petit peu plus loin. Au début de 2021, les conditions de base pour aboutir à la solution à un État sont en place. Ceux qui reconnaissent ce fait sont peu nombreux, même si la réalité sur le terrain leur saute à la figure. Accoutumés pendant des décennies à penser dans les termes de la solution à deux États, la plupart des Palestiniens ignorent tout ce qui contredit cette vision. S'il n'en était pas ainsi, ils se seraient rendus compte que depuis 1967, Israël-Palestine est devenu un État unique, sauf le nom. Voilà, donc cette idée de se dire que l'État unique existe déjà, mais qu'il est un État d'apartheid, on retrouve bien cette notion. Je continue un petit peu plus loin. Israël-Palestine en 2021 est un seul État, voilà, c'est ce que je venais de dire, et un État inégalitaire avec différents droits et différentes classes de citoyenneté. Sa population comprend 6,6 millions de Juifs israéliens avec pleine citoyenneté et plein droit, 1,8 million de Palestiniens d'Israël dont la citoyenneté et les droits sont réduits, et 4,7 millions de Palestiniens qui n'ont ni citoyenneté ni droit. Ce dernier groupe, on l'a vu, est handicapé par des années d'occupation militaire et une myriade de pratiques discriminatoires. Et je termine ce chapitre 4, par cet extrait-là. Le moment est venu de transformer la lutte pour un seul État avec des droits égaux pour tous. Ce sera difficile à réaliser et ne pourra se faire que par étapes. Il faut persuader l'autorité palestinienne de se transformer de pseudo-gouvernement d'un État inexistant en corps luttant pour l'égalité des droits. Une grande campagne devra être lancée, comprenant l'éducation civique, l'utilisation des masses médias pour promouvoir l'idée internationalement, le recours à la loi internationale et des réseaux de connexion avec des individus, des organisations et des États comme l'Afrique du Sud. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle montre ce qui est à faire une fois prise la décision sur les droits égaux. Ceux qui soutiennent les droits des Palestiniens doivent s'aligner sur cette demande. Les Juifs israéliens qui partagent cette vision doivent s'unir aux Palestiniens dans une lutte commune pour l'égalité. Créer une société juste à la place du système israélien actuel qui privilégie un groupe aux dépens des autres est la seule option morale et réaliste pour l'avenir. C'est aussi la meilleure façon de réparer le terrible mal qui a été fait aux Palestiniens ainsi qu'aux Juifs. Voilà, ainsi se termine le chapitre 4. Alors, nous allons refaire une pause musicale. Peut-être avez-vous entendu parler de la controverse sur les réseaux sociaux au sujet de la chroniqueuse de France Inter qui s'appelle Sophia Aram, qui, dans son billet matinal du 30 mai 2022, s'est penchée sur le retour médiatique de l'ex-rappeuse Diams, mais pour déplorer la disparition des voix féminines sur la scène musicale arabe à cause du poids de la religion. Alors, Sophia Aram a déclenché de nombreuses ripostes à cette « vue de l'esprit », entre guillemets, et notamment une riposte de Sarah Grira, qui écrit sur le site Orient 21 et qui a fait un article le 3 juin 2022, dans lequel elle nous dit, je cite, « Ces voix sont toujours présentes et leur répertoire se transmet de génération en génération. Elles demeurent une référence pour une production musicale qui, comme partout ailleurs, évolue, se renouvelle, accompagne son époque, car elle ne vit pas isolée. » Donc, dans cet article, Sarah Grira nous fait découvrir notamment plusieurs chanteuses arabes, et notamment la chanteuse égyptienne Dina El Wedidi, dont nous allons justement maintenant écouter une chanson qui s'intitule « Ya Bader », dans laquelle elle dit notamment, alors je vous lis quelques paroles de cette chanson, parce qu'elle chante en arabe bien évidemment, « Ô Bader, quel travail a troublé mes pensées. C'est interdit pour toi, ma belle, mes larmes coulent le matin. Comprenez, vous croyez des mots isolants et vous m'abandonnez. J'ai peur que tu brûles mon feu qui avait l'intention d'aimer. Reste loin de lui. Tout cela n'est que désertion et conflit. Et il m'a posé des questions à ce sujet. Je t'aimais tellement, je n'en ai rien vu. Sauf pour le choyer, la sécheresse, le repoussant et l'abandon, tant que je sais ce qu'il y a dedans. » Voilà, ce sont des phrases extraites de cette chanson que nous allons maintenant écouter. Cette chanson qui s'appelle « Ya Bader » et qui est chantée par Dina El Wedidi, qui est une chanteuse égyptienne. À tout à l'heure.
يلي نويت الغرام خليك بعيد عني.
Voilà, très jolie chanson. Alors, toujours dans notre ouvrage, je passe sur le cinquième chapitre qui s'intitule « 11 jours en mai » qui parle des événements dramatiques qui ont eu lieu en mai 2021, d'abord à Jérusalem puis à Gaza avec des bombardements meurtriers et destructeurs. Et j'arrive à l'épilogue du livre avec cette question, donc sur le dernier chapitre, s'intitule « Épilogue, la fin du sionisme, point d'interrogation ». Et là, je vais vous lire la première page et la dernière page de ce chapitre. Ce livre a exploré les divers paramètres du problème d'Israël-Palestine en se demandant pourquoi, malgré les nombreuses propositions mises en avant, il reste non résolu. La principale raison de cet échec est que l'une des parties du conflit, Israël, a pu imposer sa propre vision de l'avenir, la colonisation de la terre palestinienne et l'exclusion ou l'expulsion de ses habitants, sans être nullement gênée par des pressions extérieures. C'est cette attitude de laisser-faire de la communauté internationale et particulièrement des États-Unis qui a conduit à l'impasse actuelle. Aujourd'hui, trois issues problématiques sont possibles. Petit a, laisser perdurer la situation présente. Petit b, diviser le pays en un État israélien et une série d'enclaves palestiniennes qu'on appellera État palestinien. Petit c, partager la terre dans le cadre d'un État unitaire. Les deux premières options, comme je l'ai montré, sont clairement intenables sur le long terme. Seule la troisième, qui a été développée donc dans le chapitre 4, a des chances de tenir la distance. C'est qu'elle est la seule solution juste pour résoudre un conflit dont l'essence est l'injustice. On a pris l'habitude de ne jamais prendre en compte les racines de ce conflit, c'est-à-dire la dépossession palestinienne et ses conséquences. J'ai montré que toutes les propositions de paix autres que l'État unitaire avaient le défaut d'être inéquitables, ignorant ou minimisant l'importance de la question des réfugiés et que pour cette raison, elles n'auraient pas été durables quand bien même elles auraient été appliquées. Je passe donc à la dernière page de l'ouvrage. Notre énumération des énormes obstacles à la solution à un seul État peut intimider jusqu'à ceux qui la soutiennent en théorie. Mais le fait qu'une chose soit difficile à réaliser ne l'empêche pas d'être la chose à faire. Pas plus que l'accomplissement de la solution à un seul État ne dépend que de la volonté d'Israël et de ses soutiens. D'autres facteurs, même actuellement imprévus ou considérés comme improbables, peuvent intervenir et changer radicalement la situation. Par exemple, un changement dans la politique étrangère des États-Unis, ou la renaissance d'un pouvoir arabe, ou toute autre circonstance extraordinaire. L'une ou l'autre peuvent changer radicalement le sort des Palestiniens, même si aucune n'est encore survenue et si certaines ne surviendront jamais. De tels événements, s'ils ont lieu, dicteront la date et le rythme de la solution à un État. Mais le concept devra avoir été établi longtemps auparavant, non pas comme un but immédiatement atteignable, mais comme une vision, une aspiration et une foi dans l'humanité des Palestiniens et des Juifs et de tous ceux qui souhaitent les voir vivre en paix. Voilà, donc ça c'est la fin de l'ouvrage. Donc je vous rappelle le titre de cet ouvrage qui est paru aux éditions La Fabrique. Le titre, c'est « Israël-Palestine, la solution 2.1 État ». L'auteur, c'est Gada Carmi. Et j'espère, avec la lecture de ces quelques extraits, vous avoir donné envie de lire cet ouvrage parce qu'il est réellement très, très, très intéressant. Voilà, et c'était difficile de vous lire tout ce qui est intéressant. Il aurait fallu lire tout l'ouvrage. Donc, j'espère que vous pourrez l'acquérir. Il n'est pas cher du tout, hein. Il fait 13 euros, donc on peut le commander sur internet ou dans une librairie. À Marseille, vous pouvez aller le commander à la librairie Transit. D'ailleurs, il doit y être, l'ouvrage, à la librairie Transit, sur le boulevard de la Libération. Voilà. Donc, notre émission est presque terminée. Pour terminer, nous allons écouter une dernière chanson qui a été également recommandée par Sarah Greery dans l'article dont je vous ai parlé au-dessus. Cette dernière chanson s'intitule « Asli Berri » avec les artistes palestiniens Maïza Dow, Yours Ahmed, Lina Makoun, Nancy Awa, Noël Karman. C'est une œuvre qui a été réalisée dans le cadre de la campagne « Femmes contre la violence » à l'occasion de la Journée internationale de la femme en 2021. Et cette chanson vise à souligner que les libertés personnelles et l'espace individuel ne peuvent être divisés et que chaque individu a le droit de choisir son chemin de vie personnel, professionnel et social sans peur ni menace et a donc la liberté absolue d'être comme il veut pour lui-même sans atteinte à la liberté de l'autre. Voilà donc cette chanson, Asli Berri. Je dis merci à Sidi pour la technique, merci à vous tous pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une heure en Palestine. Bonne soirée à tous et à toutes.
ترضي حد جاي ترضي لك عمل فني وانت بتفتشي ما بتتأسفي عليه وانت
طلع على امك ملكي جاي بالبركي جاي بالحركي صوتي حسكي موازن المعركي
جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي حملونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج
وانا بلوي بخصري انا اصلي بري
الشلبي